aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la beauté? Et je vais commencer par faire des remarques assez simples, des constats. D'abord, ce premier constat, c'est que nous voyons de la beauté un peu partout. C'est pour ça que je vous ai projeté, là, j'ai choisi quatre images. On en trouve de la beauté dans des paysages, on en trouve dans des corps, un bel homme, une belle femme, dans des objets techniques, une voiture, une machine, et puis aussi dans des actions, des gestes, le beau geste ou la belle action sportive, ici au football. Alors la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout ça? Est-ce qu'il y a un point commun entre un beau corps, un beau visage, un beau paysage, une belle voiture, une belle action? On emploie cet adjectif, beau ou belle, à chaque fois. Est-ce qu'il y a un point commun? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de comparer tout ça? Ça, c'est la première question, elle porte sur la réalité. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible de se mettre d'accord entre nous quand on en parle? Donc prenez n'importe laquelle de ces catégories, un beau paysage, par exemple, ou une belle voiture, celle que vous voulez. Est-ce que quand on en discute, à deux, à trois, à dix, quand vous êtes en classe ou en groupe, entre vous, vous discutez de l'une ou l'autre de ces choses-là, est-ce qu'il est possible de se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une belle voiture, un beau paysage, une belle femme, un bel homme, ou bien, donc ici au sport, en sport, une belle action, un beau geste, puisque l'expression elle existe aussi. Donc ça c'est une question directement sur la réalité, sur les choses, c'est une question sur nous, sur ce qu'on pense, à quoi on pense, ce qu'on veut dire, quand on parle de belles choses, sous toutes ces formes-là. Alors, ça, c'est notre question d'aujourd'hui. Quand on se pose la question « qu'est-ce que la beauté ?», en fait, on cherche à découvrir quelque chose qui serait commun entre tout ça, et puis aussi, on cherche à se mettre d'accord entre nous. Alors, on n'y arrive pas toujours, même c'est plutôt rare, en fait, qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est qu'un beau paysage, etc. Donc je vais essayer, je n'aurai pas réponse à tout, mais je vais essayer au moins de donner un sens à cette question-là. Qu'est-ce que la beauté? Et je vais ici défendre une idée. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais je suis aussi là pour ça après, pour vous écouter, vos objections, vos idées à vous. Une idée qui est que, en fait, c'est très difficile pour nous de regarder la beauté en face et que cette idée de beauté renvoie en fait à une sorte de conflit à l'intérieur de nous, une sorte de division entre deux tendances. C'est l'idée que je vais développer. Si nous voyons de la beauté partout, aussi bien un paysage, une voiture, un corps, un visage ou une action, si nous ne sommes jamais vraiment d'accord entre nous, c'est peut-être parce que cette question de la beauté renvoie une sorte de division à l'intérieur de nous. Alors, pour illustrer ceci, je vais repartir d'autre chose. On va revenir un petit peu en arrière dans l'histoire des arts. Pourquoi les arts? Parce que c'est une des façons que nous avons, en faisant de l'art, de créer des mondes. Alors des mondes qu'on pourra juger beaux ou pas beaux du tout, mais de créer des mondes. Les arts, la peinture, la littérature par exemple, c'est pas seulement des livres et des tableaux, c'est aussi des livres ou des toiles peintes, c'est aussi un laboratoire d'idées, un laboratoire de sensations. Donc je vais me référer beaucoup pendant cette présentation là, puis j'espère nos discussions à nous aussi ensuite, à des œuvres d'art. Votre proviseur m'a dit que vous êtes allé, beaucoup d'entre vous, visiter une exposition au musée des Beaux-Arts de Lille récemment. Donc c'est l'occasion pour moi de revenir sur ces objets particuliers qui sont les œuvres d'art. Alors, je vais prendre pour point de départ donc un tableau que vous avez vu peut-être tout à l'heure en vous installant, et que je vous projette ici, qui est une toile d'un peintre qui s'appelle Rubens, et qui représente les dieux de la mythologie grecque. Parce que pour mieux comprendre ce que c'est que la beauté, je vais vous présenter ici non seulement des œuvres d'art, mais aussi, à partir de celle-ci, de cette toile-là, vous raconter très brièvement l'histoire de certains de ces dieux grecs. Et ce que se raconte, alors cette civilisation grecque de l'Antiquité, ce qu'elle se raconte à propos de la beauté à travers certains de ces dieux. Les Grecs ont inventé des dieux à l'image des hommes. Alors vous les voyez ici représentés au XVIIe siècle par ce peintre, Rubens, tous ensemble. Le conseil des dieux, c'est leur assemblée. Et vous le voyez, on peut remarquer que cette assemblée, telle qu'elle est représentée là, elle est tout sauf sereine et harmonieuse. Ils ont plutôt l'air, les uns et les autres, en proie à des passions assez intenses. Alors, je ne vais pas tous vous les décrire. En fait, je vais en isoler deux, qui sont chez les Grecs les deux principaux dieux des arts. Le premier, vous le voyez au premier plan ici, c'est Apollon. Alors lui, vous le voyez ici avec son arc, j'espère que ça vous pouvez le voir jusqu'au fond. Tout à l'heure, de temps en temps, je ferai des zooms avant sur certaines images. Mais je vous la décris. Apollon ici, il est représenté avec à la main son arc, qui est l'un de ses attributs. Parfois, on le voit aussi avec un instrument de musique à cordes, une lyre. Ici, on le voit avec son arc, c'est le dieu alors de la poésie, du chant, de la musique. Et c'est aussi un des dieux, un dieu qui est capable, pour les Grecs, de prédire, de deviner l'avenir. C'est une de ses facultés. Alors ça, c'est le premier plan. Vous le voyez avec son arc et puis entouré d'une sorte de halo de lumière. C'est-à-dire qu'il se détache encore plus du tableau que les autres personnages qui sont sur le même plan que lui. Mais je vous invite à regarder maintenant, et je vais vous l'entourer ici, un autre personnage du tableau qui est lui, à ce qu'on appelle l'arrière-plan. Si on imagine que tout ça se passe en profondeur, et à l'arrière-plan, vous avez tout au fond, derrière deux autres personnages féminins, un dieu qui est Dionysos. Alors lui, ses attributs, là on les voit beaucoup moins d'ici, c'est il a une couronne de vigne sur la tête, mais surtout on le reconnaît à ce grand bâton qu'on appelle la thyrse, qui est un bâton coiffé d'une pomme de pin. C'est le dieu du théâtre, de la tragédie et du vin. Donc on a chez les Grecs déjà une division, dans cette mythologie grecque, une division entre deux dieux des arts. Et peut-être du coup, pour nous, deux façons de se représenter la beauté. On va revenir là-dessus, et en fait je vais les prendre, ces deux dieux-là, tels qu'on les voit ici, Apollon et Dionysos, comme des sortes de guides pour nous aujourd'hui. On va suivre un petit peu dans l'histoire des arts, même si je ne parlerai pas du tout de toutes les époques de l'histoire des arts, mais aussi peut-être dans nos visions plus familières, les paysages, ce qu'on peut retrouver de leur inspiration, d'Apollon d'un côté et de Dionysos de l'autre. Alors, je vous dis quelques mots de leur représentation dans la suite de l'histoire des arts. Ici, dans la Grèce antique, deux autres représentations, l'une d'Apollon qui vise une cible avec son arc, donc avec précision et avec un but particulier. On va retrouver cette idée après dans l'idée de beauté. On vise un but particulier, ici vous le voyez pour vous à votre droite. Et puis à côté Dionysos, alors là vous le voyez avec en fait un autre de ses attributs qui est la coupe de vin qu'il tend à un convive, puisque je vous rappelle c'est le dieu des vignes, des vendanges, du vin et aussi de l'ivresse. Donc une autre approche, une autre forme, une autre façon d'approcher la question de la beauté. Alors je vous en montre de Dionysos cette fois une représentation plus récente par le même peintre que tout à l'heure, Rubens. Ici vous le voyez alors à nouveau avec ses attributs mais un peu plus mis en scène, dans une scène d'ivresse où vous le voyez on lui sert du vin. Il tend sa coupe à une femme qui derrière lui lui sert du vin, et tout autour de lui également on s'enivre, et vous avez jusqu'à un angelot à ses pieds qui est en train d'uriner au pied du dieu, qui lui-même a le pied sur un animal sauvage affalé à ses pieds. D'Apollon, je vous montre enfin une représentation, cette fois-là pour changer, non plus en peinture, non plus picturale, mais une statue qui se trouve dans l'un des bassins du château de Versailles, qu'il représente sur un char sortant des eaux. Ici, on le retrouve plus avec son arc, mais c'est bien d'Apollon qu'il s'agit à nouveau. Et vous le voyez, on a, en contraste avec la première des deux images, une représentation très très différente du corps, du corps humain. Alors, on va revenir là-dessus. Je vais vous projeter comme dernier point de repère, avant de commencer à regarder à travers l'histoire des arts comment ces deux visions de la beauté peuvent se trouver en conflit, je vous projette un texte d'un philosophe. Parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure donc votre proviseur et Madame Zoumidi, mon métier c'est d'enseigner et de faire des recherches aussi en philosophie. Alors c'est une discipline qui s'apprend parfois au lycée, puis ensuite à l'université, dans laquelle on travaille sur ce genre de questions. Des grandes questions, comme qu'est-ce que la beauté, par exemple. Et on le fait avec l'aide de gens qui y ont déjà réfléchi. Je vous projeter ici un tout petit extrait de texte philosophique. Ce sera pratiquement le seul aujourd'hui, juste pour que vous ayez un regard, un contact avec ce genre de texte. C'est pas de la littérature, c'est, disons, des gens qui essayent de répondre à des questions abstraites et compliquées. Ici, alors, le philosophe en question, il s'appelle Nietzsche, et c'est un des philosophes qui a réfléchi à notre question d'aujourd'hui. Je vous lis ce texte, et puis après on va partir à l'exploration de notre question à partir de ce qu'il nous suggère. Il dit « à l'encontre, c'est-à-dire au contraire, à l'encontre de ceux qui s'appliquent à faire dériver les arts d'un principe unique, comme la source de vie nécessaire de toute œuvre d'art, je contemple ces deux divinités artistiques des Grecs, Apollon et Dionysos, et je reconnais en eux les représentants vivants et évidents de deux mondes d'art qui diffèrent essentiellement dans leur nature et leur fin, c'est-à-dire leur but, respectifs. Apollon se dresse devant moi comme le génie du principe d'individuation, c'est-à-dire celui qui me fait sentir moi-même et celui qui incarne cette idée que nous sommes tous, chacun de nous, des individus. Le génie du principe d'individuation qui seul peut réellement susciter la félicité libératrice, le plaisir de se libérer, dans l'apparence transfigurée. Ce qu'il décrit ici, c'est ce qui se passe lorsque les masques tombent, et que nous découvrons une vérité qui était cachée. Donc avec des mots un peu compliqués, je vous explique là, voilà ce qu'il essaye de dire. Tandis, je finis le texte ici, tandis qu'au cri d'allégresse mystique de Dionysos, le joug, c'est-à-dire ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avancer, le joug de l'individuation est brisé, et la route est ouverte vers les causes génératrices de l'être, vers le fond le plus secret des choses. Alors ces deux visions de la beauté, je vais essayer de vous montrer qu'on les retrouve dans l'histoire de l'art, et puis aussi peut-être dans notre regard à nous tous sur ce que nous trouvons beau, dans les divers domaines que j'évoquais tout à l'heure. Donc pour avoir quelques points de repère, voilà comment on pourrait présenter les deux axes là, de notre question. Qu'est-ce que la beauté ? Avec Apollon, on voit apparaître une représentation de la beauté dans laquelle elle sera plutôt vécue et vue comme une sorte de révélation. Vous allez dire, c'est beau lorsque vous atteignez une sorte d'idéal, quelque chose vous est révélé. Lorsque, comme je vous le disais, les masques tombent. À l'opposé, chez Dionysos et dans d'autres représentations de la beauté, on aura affaire plutôt à une perte de conscience. Je vous le rappelle, c'est le dieu de l'ivresse et du vin. On opposera de la même façon, du côté apollinien ou d'Apollon, l'idéal, ce que, par exemple, dans l'œuvre d'art, on peut trouver sous la forme d'une idée, à, de l'autre côté, du côté de Dionysos, aux sensations fortes. Et encore une fois, ici, il faut penser au symbole de l'ivresse et du vin. On pourra opposer aussi, d'un côté, l'expérience, parfois choquante, de la beauté ne rassure pas toujours, avec d'un autre côté, au contraire, une vision plus sereine, apaisée et rassurante. Donc commencez à vous demander, parce qu'ensuite c'est ce qu'on va étudier à travers des œuvres, de quel côté il vous semble que vous penchez plutôt ? Est-ce que c'est plutôt du côté de l'équilibre ou du déséquilibre ? Plutôt de l'ordre ou du chaos ? Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est jamais simple, et que dans l'histoire de l'art, les œuvres vraiment intéressantes, elles nous situent toujours un petit peu à la limite. En tout cas, nous font nous poser cette question. Qu'est-ce que je trouve de vraiment beau ? Je voudrais aussi vous montrer qu'on peut très bien se la poser à propos d'un paysage, de la beauté d'un corps, d'un visage, d'une action ou d'un objet. Alors, on va repartir à l'exploration donc, de la première dimension avec un tableau qui nous présente lui aussi une figure de la mythologie grecque qui est Vénus, pardon, de la mythologie romaine qui est Vénus. Chez les Grecs, c'est Aphrodite. Ce tableau, c'est la naissance de Vénus. Et elle est connue, Vénus, comme la déesse de la beauté et de l'amour. Alors, ses représentations dans l'histoire de la peinture et de la sculpture sont multiples. Je vous présente un des tableaux fameux de l'histoire de l'art qui représente sa déesse. Je voudrais ici qu'on le regarde, ce tableau, d'une manière particulière. Il y a une lecture possible de ce tableau, non pas par l'histoire, la mythologie, non pas par les couleurs, mais par les lignes. Et je vais ici alors souligner à l'écran quelques-unes des lignes géométriques qui le structurent. Si on le divise, ce tableau, qui est un cadre rectangulaire, par une ligne, un axe central, on peut, en observant les formes, en cherchant des lignes géométriques et commençait à voir apparaître, à l'intérieur même du tableau, dans sa composition, certains grands équilibres. Alors je vous aide un petit peu en vous situant ici deux axes qui vont être en fait les côtés d'un triangle qu'on va retrouver de chaque côté de ce tableau. Puisque vous voyez, de part et d'autre du personnage central de Vénus, il y a deux groupes. Il y a un groupe à sa gauche qui est le groupe des vents. Vous voyez, il souffle sur elle et on le voit, ça transporte des fleurs et des pétales. Et puis de l'autre côté, un personnage qu'on peut associer au printemps qui s'apprête à la recouvrir d'un voile. Donc on assiste à la naissance ici de la déesse de l'amour et de la beauté au moment où elle va être recouverte d'un voile, juste avant donc juste avant qu'elle soit recouverte. Alors vous pouvez le voir ici, ces deux groupes de part et d'autre composent des axes. Ici celui des vents et puis de l'autre côté le personnage qui s'apprête à le recouvrir d'un voile. Des axes qui seraient donc le côté opposé du triangle. Et ce qu'on peut observer également, si on suit le mouvement général, dans cette lecture géométrique, qui n'est pas la seule, ce qu'on peut observer également dans ce tableau, c'est que du coup, chacun de ces deux groupes se situe au centre d'un cercle, le premier axe que je vous montrais tout à l'heure, qu'on retrouve donc de part et d'autre du personnage. Ce tableau, c'est une de ces lectures, il nous présente donc une composition qui est autant géométrique que picturale, qui est autant une construction de géométrie, de par les lignes qu'on peut y repérer, que la présentation d'un sujet dans lequel vous reconnaissez des personnages et qu'on peut rattacher à la mythologie. Donc, pour un instant, je vous propose de le regarder comme cet enchevêtrement de lignes, je supprime ici le fond, et comme cette composition purement géométrique. Si on était ici en cours de mathématiques, on pourrait s'arrêter sur les propriétés de ces triangles, de ce rectangle ou de ces cercles. Alors, à la fois les mesurer, puis ensuite examiner leurs relations. Je souligne que c'est justement lorsqu'on proposait de faire certains historiens de l'art, puis aussi certains géomètres, on va dire, en observant que dans ce tableau, il y a des proportions particulières qu'on retrouve dans quelques œuvres dans l'histoire de l'art, puisque en mesurant la largeur et la hauteur du tableau, on a pu observer que la proportion entre la largeur et la hauteur du tableau était égale à ce que, alors, dans l'histoire des mathématiques, mais aussi l'histoire de l'humanité, vous l'avez sûrement déjà vu en cours de mathématiques ça, on appelle le nombre d'or. C'est cette proportion, alors ici je vous l'inscris en bas du tableau, c'est la forme abrégée, si vous l'aimez. La relation entre ici la largeur et la hauteur du tableau est égale, le quotient, est égale à ce nombre qu'on retrouve alors dans ce tableau et aussi dans plusieurs autres créations de l'humanité. On le retrouve dans l'une des pyramides d'Égypte et puis dans d'autres œuvres que je vous présenterai rapidement ensuite. Donc c'est une relation géométrique entre ici deux mesures des côtés de ce rectangle. On retrouve, dernière remarque à ce sujet, on retrouve cette proportion entre les deux côtés du triangle de gauche ici, que j'ai souligné en rouge, et puis également de l'autre côté du tableau. Donc à plusieurs points de ce tableau, vous retrouvez une constante qui est la présence de ce rapport, de cette proportion, que donc dans l'histoire de la culture et aussi l'histoire des mathématiques, on a appelé le nombre d'or. Alors, je vous reprojette un instant la toile. Je répète, évidemment, c'est pas la clé, c'est pas la seule façon de regarder un tableau que d'essayer de trouver des lignes géométriques. Et si on va un peu plus loin là-dessus, on pourrait dire que dans presque tous les tableaux, à moins qu'ils soient totalement abstraits, on peut dessiner des lignes géométriques. Ce qui est intéressant ici, c'est que une grande partie quand même de sa composition peut être rattachée à ces figures et à une symétrie autour de cet axe central entre les deux triangles et les deux cercles. Alors, je vous montre simplement que cette proportion, ce nombre d'or, on le retrouve dans d'autres constructions, ici architecturales, et notamment dans cette façade du Parthénon, qui est le temple d'Athéna à Athènes, qu'on voit alors ici dans son état actuel, à votre gauche, et puis dans une reconstitution ultérieure de sa façade à votre droite. Alors ce temple qui est construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, on y trouve, d'après également les calculs qu'on a pu faire sur ces mesures, on y trouve un même équilibre entre la longueur de sa base et la hauteur donc de sa façade, un même équilibre avec une même proportion qui, si l'on divise l'une par l'autre, et si la base par la hauteur, permet d'obtenir le même nombre, ce nombre d'or. Et juste ici, je vous souligne que son nom, on le note phi, hein, cette lettre grecque qui se prononce phi, son nom vient justement du sculpteur, des sculptures qui se trouvent à l'intérieur de ce temple. Hein, lorsque aujourd'hui on note ce nombre en mathématiques, on reprend souvent cette lettre grecque, et c'est de là que vient son appellation. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est si... dans les œuvres d'art ou bien dans ces photos d'une nature, alors qui est toute proche d'ici, hein, c'est terrible par exemple, lorsque nous voyons, nous disons voir de la beauté, c'est parce que nous décelons un équilibre de ce type, un équilibre qui serait géométrique. Est-ce que notre œil ici retrouve dans les formes que nous disons belles, alors moi je les trouve beaux, c'est terrible, donc je vous les montre, voilà, tels qu'on les voit sur cette photo, est-ce que, alors je ne chercherai pas à y faire apparaître un nombre d'or, hein, mais est-ce que c'est parce qu'on y trouve une certaine harmonie géométrique, presque celle de pyramide ici, alors je fais apparaître que les arêtes de triangle, mais est-ce que c'est parce qu'on y retrouve une forme d'harmonie comme celle-là que l'on peut les trouver beaux. Encore une fois, on peut en discuter, mais c'est une interprétation possible. Donc est-ce que jusque dans la nature, lorsque vous regardez un paysage naturel, ce qui vous paraît beau est plutôt donc ce qui vous apparaît comme équilibré, comme répondant à une proportion de type géométrique? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est l'équilibre? Mais alors, il y a une autre façon de les regarder, c'est terrible, pas seulement donc géométrique, et puis les paysages naturels dans leur ensemble. On pourrait très bien, en regardant encore un instant la même photo, se dire que, au contraire, ce qui nous y paraît beau dans ce paysage, c'est qu'il rompe la ligne horizontale de l'horizon et qu'il vienne introduire justement comme une rupture, quelque chose qui serait plus mélodique, musical, qui vient casser la linéarité, sinon de la ligne d'horizon. Donc c'est une autre façon. À ce moment-là, ce qui nous paraîtrait beau, ce serait une sorte de mouvement qu'ils introduisent dans le paysage. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons, là encore, de lire même un paysage, comme on peut lire un tableau, et s'interroger sur sa beauté. Ce qui nous paraît beau dans la nature, ça pourrait être, au-delà de la géométrie, aussi les changements des saisons qui font varier les couleurs. Hein, ici, recouvert par la neige, le même paysage, il n'est pas figé pour l'éternité dans une forme géométrique. Hein, ce qui rend si important dans nos vies, la contemplation de la nature, c'est que justement elle évolue, elle change à travers les saisons. Et c'est peut-être ça, plus que la stabilité et la linéarité, qui fait que nous trouvons beau certains paysages. Alors je vais explorer maintenant justement cette autre perspective. Il n'y a pas que l'équilibre qui nous attire et qui nous plaît et qui nous fait trouver beau ou belle encore un paysage, une voiture, une action, comme je le disais tout à l'heure. Sinon, pourquoi expliquer par exemple que nous aimions autant, en tout cas que nous soyons souvent très fascinés par les tempêtes, par les orages, hein, donc cette photo c'est après la tempête si vous voulez, mais qu'est-ce qui nous plaît autant dans le spectacle de la nature chahutée, en mouvement, même au-delà du changement des saisons? Qu'est-ce qui nous plaît autant dans des spectacles naturels, je vais aller jusque-là, qui peuvent nous faire un peu peur, voire nous effrayer, qui sont donc les incendies ou les tremblements de terre? Alors c'est pas de la provocation, ce que je fais là. Comment expliquer sinon pourquoi nous aimons autant les fines catastrophes dans lesquelles la nature est détruite? Elle n'est pas seulement en train de changer, mais elle est détruite. Hein, la technologie humaine submergée par la vague géante, le changement climatique, le tremblement de terre. Donc je voudrais explorer avec vous à partir de là l'autre voie, hein, celle du mouvement, voire du chaos, et se demander pourquoi ce qui nous plaît, c'est parfois tout autant la ligne géométrique pure que d'un seul coup ce qui vient interrompre cet ordre presque trop parfait. Alors, pour illustrer ça, hein, je vous montre quelques affiches ou photogrammes de films dits catastrophes. Et ce qui est assez clair, c'est que je pense qu'on a tous vu au moins un, on sait qu'ils ont tous le même scénario et le même genre, mais on ne peut pas bouder son plaisir à ces moments dans lesquels les maisons, au départ présentées dans leur état si harmonieux, s'effondrent, le sol s'ouvre, les météorites pleuvent et la ville se retrouve détruite. Alors, je vous prends quelques images de ces tirées de certains de ces films dans lesquels, Alors ce n'est plus la ligne géométrique pure, mais au contraire, vous voyez ici un gouffre qui s'ouvre au milieu de l'image, ce qui vient creuser le paysage, creuser le décor, et mettre à mal les fondations de, ici, d'une ville, d'une grande ville, que l'on croyait solide. Mon idée, c'est qu'on a un plaisir esthétique à regarder ce genre de scène, même si, alors, il est beaucoup moins avouable, hein, c'est un plaisir qu'on trouve au cinéma, il est beaucoup moins avouable, c'est un plaisir un petit peu honteux probablement, de regarder ces effondrements, ces destructions, avec autant de plaisir, sans doute, parfois, que l'on regarderait les compositions géométriques, harmonieuses, dont je parlais tout à l'heure. Comment expliquer que nous aimions autant ce genre de scène, sinon que nous aimons aussi nous retrouver comme ici au bord du gouffre, c'est-à-dire contempler la catastrophe et sentir en quelque sorte quelque chose de cet ordre nous arriver, même si nous sommes bien tranquillement un sachet de pop-corn à la main dans l'ombre d'un multiplex lorsque ça arrive. Alors, je voudrais qu'on regarde dans l'histoire de l'art, et comment se manifeste cette autre tendance. Vous vous souvenez du dieu de l'ivresse? Mon idée ici, c'est qu'il est à l'œuvre, là, en quelque sorte, dans ce genre de représentation. C'est lui qui nous dicte ce genre de, si on en croit les Grecs, ce genre de vision, alors on va dire chaotique, déséquilibrée, choquante, de sensations fortes plutôt que d'idées, et des visions qui sont proches d'une expérience qu'on pourrait décrire comme de perte de conscience. Donc vous vous souvenez, Dionysos, on s'en rapproche un petit peu ici, au fond du tableau, à l'arrière-plan, c'est celui qui chuchote ici à l'oreille d'une déesse quelque chose, et qui penché donc sur son épaule semble tout au fond du tableau inspirer autre chose. C'est autre chose qu'Apollon. Il vient perturber l'ordre, l'équilibre établi de cette harmonie qu'on contemplait tout à l'heure. Alors, voyons comment il se manifeste. D'abord, alors ça c'est pas une déesse, il est souvent suivi dans la mythologie grecque, dans ses représentations, d'une troupe d'hommes et de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans la suite de Dionysos. On les appelle les ménades chez les Grecs. Ça vient d'un verbe grec qui veut dire délirer, hein, mais délirer au sens de l'ivresse ou de la transe. Dans la mythologie romaine, Dionysos, il a un autre nom, disons qu'il a inspiré un dieu romain qui s'appelle Bacchus. Donc les ménades, vous retrouverez cela dans la mythologie romaine sous le nom de Bacchante. Et leurs fêtes, les fêtes dionysiaques, s'appellent chez les Romains de l'Antiquité les Bacchanales. Alors le rôle de ces personnages ici, c'est pas de faire régner l'ordre, mais au contraire, en quelque sorte, de chanter au bord du gouffre, comme je vous le montrais tout à l'heure, et d'entraîner toute une troupe de convives dans une sorte d'ivresse collective. Donc les ménades ou bacchantes qu'on voit ici sur une fresque, je vous fais remarquer qu'on les retrouve dans nos mythologies contemporaines. Tout à l'heure, je vous parlais de films catastrophes. Ici, je vous montre une image d'une série télévisée dans laquelle on retrouve un personnage qui, par exemple, est directement nommé par les créateurs et les scénaristes comme une ménade. Donc vous avez, pour décrypter certaines représentations de notre culture d'aujourd'hui, ça c'est une série télévisée qui date de 2008, mais elle est toujours en cours, vous avez besoin aussi de ce recul historique et de l'histoire de l'art. Vous ne comprendrez pas certains de ces personnages pour certaines de ces séries sans avoir ce recul. Donc les images que je vous montrais juste avant, ici, de la culture antique, elles permettent d'éclairer cette représentation et ce personnage-ci et son rôle, puisque son rôle dans cette fiction, c'est d'organiser des bacchanales ou des fêtes dans lesquelles les autres personnages de l'histoire se trouvent pris dans une sorte d'ivresse collective, des célébrations. Et même chose, c'est assez rare pour être souligné, c'est que vous avez là une fiction contemporaine dans laquelle, dans certaines scènes, ce personnage parle le grec ancien, et vous entendrez invoquer le nom de Bacchus ou de Dionysos, de Dionysos en l'occurrence. Alors, comment ici illustrer ceci? J'ai choisi, alors pour compléter cette présentation de la voix, on va dire, dionysiaque, la voix de l'ivresse dans l'art, quelque chose qui ne relève plus de la peinture, mais de la danse. Alors une forme de danse qu'on a peut-être moins coutume de voir que d'autres, il ne s'agit pas du ballet, il s'agit d'une danse plutôt de transe. Je vais vous montrer là un court extrait à l'écran d'une chorégraphie qui illustre bien ce courant dans l'art est cette forme de beauté, hein, comme possédée. Première chose, vous voyez sur l'image fixe ici, le personnage est derrière un masque, la danseuse et chorégraphe est derrière un masque. Alors, cette danseuse et chorégraphe s'appelle Mary Wigman, et ici c'est une captation filmée de ce qu'elle a appelé la danse de la sorcière, filmée en 1929. Je vais essayer de déclencher ça. Très court extrait, mais juste pour vous indiquer que la danse, d'abord, c'est pas que le ballet. Hein, le ballet, c'est un des genres de cet art, art vivant ou art du spectacle, et la danse. On a ici une chorégraphie, alors qui est beaucoup plus atypique, à laquelle on s'attend moins quand, en général, on parle de danse. Elle date du début du XXe siècle, et c'est une tentative pour présenter alors une autre vision de la beauté à travers ce qui peut s'apparenter à la transe. Alors ici, c'est pas une transe collective, mais je l'ai choisi là ce très court extrait de cette chorégraphie parce que d'une certaine façon, elle évoque dans un art alors qui est extrêmement important, qu'on ne peut pas ne pas évoquer quand on réfléchit à la beauté, qui est un art du corps, hein, où le seul outil c'est le corps, qui est la danse. Donc elle évoque ici cette autre voie, la voie qui n'est pas celle de l'ordre, de l'équilibre, mais qui sera celle donc du déséquilibre. Alors là on n'est pas dans le chaos, hein, mais on est dans quelque chose qui s'en rapproche. Vous voyez, les mouvements ne sont pas, spontanément on dirait qu'ils ne sont pas harmonieux, et où pourtant on sent quelque chose qui vibre derrière le masque et à l'intérieur de ce corps qui peut évoquer donc une forme de beauté qu'on peut appeler dionysiaque, hein, c'est-à-dire selon l'inspiration de cet autre dieu qui n'est plus Apollon, mais cet autre dieu que les Grecs, auquel les Grecs se réfèrent pour illustrer donc leur représentation du beau. Je vous la reprojette donc une dernière fois. Vous avez un plan du masque dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, quelque chose qui est alors rythmé, ici on n'a pas le son, mais qui est rythmé simplement par un tambourin, et qui pourrait faire penser à ces danses ou à ces transes des ménades ou des bacchantes qui accompagnent le dieu Dionysos dans ses festivités. Alors, je vous montre comment cette tradition se traduit dans l'histoire de l'art, l'histoire de l'art plus proche de nous, au début du XXe siècle. Il se trouve que cette danseuse, Mary Wigman, elle a inspiré un peintre d'un courant artistique qu'on appelle l'expressionnisme. L'expressionnisme, alors vous savez que les ismes, il y a beaucoup de mots en isme, il faut un peu s'en méfier, souvent c'est des étiquettes un peu simplistes. Ici, plutôt que vous parler longuement de l'expressionnisme, je préfère vous montrer ce tableau qui est un tableau de Émile Nolde, « Les danseuses aux bougies ». Émile Nolde, il a souvent pris pour modèle la danseuse Mary Wigman. Il s'est souvent inspiré de ses danses à elle pour essayer de les traduire en tableau. Donc vous voyez ici une tentative dans la peinture pour rendre le mouvement de la danse. Hein, même sans entrer trop dans les détails de ce tableau, vous sentez bien qu'on n'a pas envie de lui plaquer des lignes géométriques à celui-ci. C'est assez difficile de distinguer un premier plan et un arrière-plan. On pourrait tenter de l'analyser par la géométrie, mais la première chose qui frappe, vous me direz ce que vous en pensez ensuite, mais la première chose qui frappe ici, c'est quand même l'impression générale de mouvement. Et je voudrais, pour vous le faire bien sentir, le mettre en parallèle avec une autre représentation d'un sujet qui est pourtant le même, qui est des danseuses. Alors ici, qui se prépare en fait à un examen de danse sur le tableau de droite. Celui-ci, si on les compare, sur le même sujet, c'est la même chose qui est représentée, c'est l'univers de la danse. Celui-ci sur le même sujet, l'examen de danse de Degas, vous voyez, il se prête beaucoup mieux à une lecture géométrique. Il va plutôt nous entraîner vers l'analyse géométrique, la recherche de l'harmonie, la pureté des lignes. Hein, vous avez à la fois une ligne qui est indiquée par le regard des deux femmes, qui ne sont pas danseuses, mais qui sont les préparatrices, derrière l'arrière-plan, qui plonge vers la pointe de la danseuse qui est à gauche. Et puis vous avez une ligne de fuite, une perspective, avec les planches, hein, le plancher et puis le bas du mur. Donc vous avez quelque chose qui ici s'impose, hein, et je reprojette l'autre tableau maintenant, avant de venir au sport dans un instant, quelque chose qui s'impose, qui est la division entre ces deux, le conflit presque, entre ces deux façons de représenter un même sujet. Le corps en mouvement, et puis le corps un peu figé, qui se prépare à l'épreuve, à l'examen de danse pour le tableau de Degas. Alors, mon propos, c'est pas de vous dire que celui-ci est plus beau que celui-là, ou l'inverse. C'est plutôt qu'on essaye de chercher, par exemple, dans la comparaison entre ces deux tableaux, ce qui nous pousse à pencher plutôt dans un sens ou dans l'autre. Vous serez peut-être, vous êtes ici 105 ans, presque, même plus, presque 200, vous aurez peut-être 200 avis différents. Il y a plein de façons ici d'abord plein de références, vous n'aurez sûrement pas les mêmes que les miennes. Donc j'aimerais bien après dans vos questions, et puis dans vos remarques simplement, que vous me disiez de quel côté vous penchez, quels exemples vous pourriez donner, autres que cela, en dehors de la danse, en dehors de la peinture, ce que vous voudrez, et des paysages que je vous ai montrés, quels autres exemples on pourrait prendre pour essayer de répondre à notre question. Alors, pour vous montrer que ça ne se limite pas aux arts, vous avez visité le musée des Beaux-Arts, et c'est une expression qui va bien avec notre sujet d'aujourd'hui, aux arts qui font partie de cette institution des Beaux-Arts, ça ne se limite pas non plus à la danse. Je voudrais qu'on fasse un parallèle maintenant avec un domaine où apparemment on ne chercherait peut-être pas la beauté, je vous le disais tout à l'heure, qui est le domaine sportif. Vous savez que dans ce domaine, alors là ce sont les journalistes, les commentateurs, on parle parfois aussi d'un beau geste, il est souvent associé à des expressions techniques, qu'on va retrouver en fait en peinture, qu'on va retrouver dans l'histoire des arts, des expressions qui démontrent ou qui évoquent la maîtrise. Je parle simplement du football, de contrôle, de maîtrise technique, parfois aussi on compare parfois les footballeurs, les sportifs à des artistes d'art du dribble. Alors, je voudrais juste vous signaler que ça, c'est une façon de transposer dans un domaine qui apparemment, à première vue, n'a rien à voir avec les arts, de transposer quelque chose qu'on appelle le jugement esthétique. C'est-à-dire de se poser en fait la même question à propos ici d'un geste sportif. Alors ça peut être regarder l'année entière d'un footballeur et voir ce qu'il a fait pendant cette année, la carrière entière, ou bien s'arrêter sur un moment d'un match et puis contempler une action exactement comme on le ferait du mouvement d'une danseuse. Je vous projetais tout à l'heure une chorégraphie. On pourrait de la même façon se demander si on peut trouver chez les footballeurs, alors chez certains les deux, chez parfois chez d'autres, une de ces deux tendances, plutôt vers la maîtrise ou plutôt dans un autre sens vers le débordement d'énergie, presque le chaos. Donc ça, c'est une autre façon, je répète, de se poser la question qu'est-ce que la beauté, parce qu'elle n'est pas du tout limitée aux œuvres d'art. Alors, je vous projette, pour finir, en parallèle, si vous voulez, une autre forme de chorégraphie. Je vais vous montrer dans un instant un petit extrait de ce film. Quelque chose qui, ici, pourrait nous inciter à faire bouger un peu les lignes. On peut, dans ce sport, dans le football, se demander si certains des footballeurs n'élèvent pas justement leur pratique sportive au rang d'un art. Je vais vous montrer donc alors ça a été considéré ce but comme certains l'ont appelé le but du siècle. C'est pour beaucoup, je crois pour la plupart d'entre vous, bien avant votre naissance, mais c'est, on va dire, comme il y a des classiques en art, un classique de l'histoire du football. Ça date de 1986 et vous voyez ce footballeur, Maradona, qui a été considéré comme donc un artiste, traverser le terrain, perforer toutes les défenses adverses. Et puis, alors vous le savez, peu de temps après avoir par ailleurs marqué un but de la main, transformer ce match en quelque chose qui est resté dans les mémoires comme bien plus qu'une partie de football. Je vous le remets un instant, je voudrais que vous essayiez de le regarder, je vais me taire là pendant un instant, comme on regardait tout à l'heure la sorcière, comme un espèce de génie qui sort d'une boîte et puis qui défait tout ce qu'on pourrait attendre d'une partie de football normale. Ça se produit très rarement, mais qu'on le regarde un instant comme si on était au théâtre et qu'on voit ici des danseurs. Si vous voulez. C'est très très bref. Je ne fais pas la rediffusion plus d'une fois, mais je voudrais qu'on le regarde avec cette vision-là. Et puis le reste, c'est les célébrations habituelles. Voilà, donc ça c'est une façon de vous amener à vous demander, ici dans ce cas qui est celui d'un geste sportif, à vous demander ce qui nous le fait trouver beau. Est-ce que c'est seulement la maîtrise? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relèverait plutôt du débordement, une sorte de folie? Alors attendez, je remets ceci. Donc les termes qui ont été attribués du coup après ce geste et puis tout au long de sa carrière à ce footballeur, c'était ceux parfois de génie. On a dit qu'il y avait une sorte de démesure, il y a quelque chose qu'on ne voit pas chez d'autres footballeurs. Il s'agit plus tant de contrôle du ballon que d'une sorte de percée. On ne sait pas très bien d'où elle vient, on a l'impression que lui-même est comme, on pourrait le dire comme ça, c'est une lecture presque possédée par un génie ou un dieu. Et on se demande ici si on n'est pas au bord de la folie. Alors sans parler du personnage ensuite, je laisse complètement ça de côté, du personnage du sportif dans la sphère, on va dire, médiatique. Je parle juste d'un geste, d'un moment de grâce sur un terrain de football. Je voudrais donc, pour vous montrer que la philosophie, ça permet de parler de plein de choses, puis de comprendre, j'espère, un certain nombre de choses différentes, je voudrais rapprocher ça pour finir d'un texte du même philosophe de tout à l'heure. C'est notre moustachu Nietzsche qu'on a déjà rencontré tout à l'heure. Dans un de ses textes, un autre, il évoque une sorte d'état qui pourrait être à mi-chemin entre l'apollinien et le dionysiaque, vous vous souvenez, entre la tendance à l'équilibre et puis l'agitation, le chaos, l'ouverture des abîmes. Donc je vous lis ce passage, on pourrait presque le lire comme un commentaire de ce match de 1986, de ce geste extraordinaire de ce footballeur. Celui qui est lassé du jeu et qui n'a point, par de nouveaux besoins, de raison de travailler, celui-là est pris parfois du désir d'un troisième état, qui serait au jeu ce que planer est à danser, ce que danser est à marcher, d'un mouvement bien heureux et paisible. C'est la vision du bonheur des artistes et des philosophes. Alors c'est extrait d'un texte de Friedrich Nietzsche qui s'appelle Humain, trop humain. Trop humain, qui est un autre de ses livres que celui que je vous montrais tout à l'heure. C'est pas directement sur notre sujet, mais ici il évoque bien cet état presque planant de perte de conscience. Donc du coup là on est plutôt du côté de l'ivresse et du dionysiaque, et en même temps de sérénité qu'atteignent certains artistes. Alors ici c'est un footballeur, mais on peut tout à fait le rapprocher de certains gestes artistiques, et puis aussi peut-être de certaines expériences de vie, puisque vous voyez, ce texte il fait un lien entre la forme de beauté que trouve ici l'artiste et puis celle qu'on peut expérimenter par ailleurs dans nos vies, comme une sorte d'idéal des artistes mais aussi des philosophes. Alors je voudrais, en vous reprochant pour cela notre tableau de tout à l'heure, que maintenant vous commenciez à réfléchir à toutes les façons dont peut se présenter pour vous cette opposition, cette sorte de conflit, cette différence, on peut l'appeler comme ça, cette division entre Apollon et Dionysos, entre le dieu de l'harmonie, de l'équilibre, de la poésie, donc au premier plan ici avec son arc, et puis à l'arrière-plan, dans l'ombre, mais quand même très présent dans l'histoire, la mythologie grecque, Dionysos donc avec son influence différente, son influence sur nos états, alors de transe, d'ivresse, de possession, on l'appelle comme on veut, nos états créatifs parfois. Je voudrais qu'ici vous réfléchissiez à ça en essayant d'ouvrir à d'autres exemples. Moi, si je résume, je vous ai présenté essentiellement, donc, dans l'histoire de l'art, la peinture, la sculpture un tout petit peu, mais la peinture surtout et la danse. Le cinéma, c'était vraiment très bref. C'était plutôt pour évoquer les sensations que nous donnent certains films dits catastrophes. Maintenant, je l'ai dit au début, ouvrez les yeux sur la nature autour de vous. Demandez-vous quand vous trouvez voilà, une fille ou un garçon belle ou beau, quand vous trouvez beau un objet technique, une machine, une voiture, quand vous trouvez beau un geste ou une action, et surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous présente là, n'hésitez pas à le dire. Le principe de la philosophie, puisque, donc je vous le disais, c'est ce que je fais donc avec mes élèves et dans mes recherches, le principe c'est d'exprimer nos désaccords, de dire pourquoi on n'est pas d'accord, et puis éventuellement d'essayer de trouver quelques points, au moins de quelques points d'entente. Donc j'aimerais bien vous entendre, parce que c'est en fait pour ça aussi que je suis venu, c'est ce qui m'intéresse dans cette démarche, dans ces conférences, c'est qu'on vient vous rencontrer, pas juste pour que vous nous écoutiez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, mais aussi pour que vous preniez la parole. Donc je vais vous la donner, je réponds à des questions, vous pouvez me poser des questions sur tout ça, et aussi Intervenez pour nous dire où vous voyez la beauté et pourquoi, et si vous retrouvez dans cette opposition ce clivage entre Apollon et Dionysos. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous écoute si vous avez des choses à nous dire et à partager.